RFI.
Alors, bonjour, c'est l'atelier des médias.
Bonjour, c'est Jean-Baptiste Ingold et je suis consultant en Drupal. Et
Jean-Baptiste, tu es membre de l'atelier des médias depuis longtemps. Nous sommes là à l'émission anniversaire de l'atelier et tu appliques le principe du participatif de l'atelier à ta vie de tous les jours.
Oui, alors ce que j'ai créé, c'est un média personnel pour autour de la rénovation de mon appartement pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de différentes solutions d'aménagement.
Et on va retrouver, j'imagine, un lien vers ce blog, ce site sur l'atelier des médias.
Absolument.
Sur ton profil. Merci.
Merci.
Bonjour et bienvenue. Chaque fin de semaine, depuis 4 ans, on est ensemble pendant une heure.
Joyeux anniversaire à l'atelier des médias.
L'atelier des médias. La web émission participative. Ziad Manouf, Simon de Creuse.
T'es en train de tourner, Simon, ou pas ? Et aujourd'hui, l'atelier est donc à la cantine numérique de Paris, ce lieu qui est un peu notre seconde maison. Grâce à l'accueil de ses équipes, grâce à leur esprit ouvert, simple, sans manière, l'atelier se sent bien ici et c'est tout naturellement que nous avons choisi ce lieu pour notre émission anniversaire. L'atelier a 4 ans et pour marquer le coup, on a voulu réunir quelques membres de notre famille, de la communauté qui porte ce projet radio et web. Nous sommes plus de 20 000 inscrits sur les différents comptes de l'atelier des médias, de l'ADM pour les intimes. Et cette émission est la leur, la nôtre, la vôtre. Dans un instant, le frangin Enikao, la petite sœur Dania Libone, les petits frères des Silicon Maniacs et bien entendu le père Philippe Couve seront avec nous. La famille, on en parle avec Marie-Catherine Goethe dans un instant, avec Francis Pisani aussi. On parle également voyage de famille avec nos cousins des observateurs de France 24 dans un instant. La famille, c'est aussi Mondoblog qui fête ses 1 an. Cédric Calongi sera avec nous tout à l'heure après le flash.
RFI. Podcast 2.0, Wi-Fi, tous les hotspots, moteur de recherche d'informations, si on est indexé sur Google, bêta, clic, c'est l'interactivité.
L'atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Et on commence, comme chaque semaine, avec la chronique Étreinte Digitale. Bonjour Marie-Catherine Butte.
Bonjour.
Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont favorables à la famille ou est-ce que la famille est favorable aux réseaux sociaux pour toi ?
C'était un petit peu l'idée que j'avais lorsqu'il fallait préparer cette émission autour du thème de la famille, de regarder quels sont les réseaux sociaux dédiés à la famille. Et pour commencer, quelle est la place de la famille sur le plus grand d'entre eux, sur Facebook. Et dans les témoignages que j'ai pu lire à droite à gauche ou entendre autour de moi, il me semble que la famille sur Facebook, c'est un petit peu la fin du réseau social. C'est-à-dire que quand votre maman ou votre grand-mère commence à se mettre sur le réseau, ça devient compliqué, voire ringard. J'ai des amis qui étaient un petit peu embarrassés de voir leurs parents même déballer leur linge sale sur les réseaux sociaux.
Moi, ma mère, elle fait pire, elle prend mon identité pour aller sur Facebook. Je ne sais pas si tu imagines. Du coup, je reçois des réponses de cousins à qui j'ai pas envoyé de message, à des messages que ma mère a envoyés sous mon identité.
C'est ce qui s'appelle recréer du lien familial. L'alternative, ce serait donc de créer des réseaux sociaux privés pour sa famille. Il y en a pléthore, des français comme Familycity ou Hellotipi, d'autres plus tournés autour de la généalogie comme Genome ou MyHeritage. On est plutôt dans des espaces de partage de photos. Est-ce qu'on est vraiment dans du réseau social ? C'est pas sûr.
J'ai entendu parler d'un réseau qui s'appelle Between, qui est un réseau de couples, donc pour deux personnes, tu le connais, ouais ?
Voilà, alors pour moi, ce qui s'approche le plus du réseau social pour famille, c'est finalement l'application Pass, qui a fait polémique récemment pour maltraitance de données personnelles, on va
donc,
dire.
Pass, ça s'écrit P-A-T-H, pour ceux qui ne la connaissent pas, et c'est une application qui est très en vogue.
Voilà, et qui est, selon les termes de son fondateur, Dave Morin, qui est un ancien de Facebook, pas un réseau social, mais un réseau personnel. Et je pense que là, on est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il s'agit de partager avec ses amis et sa famille, mais ce qui compte, ce n'est plus la communauté ou ses relations, c'est moi, c'est mes liens et les gens avec qui moi j'ai envie de partager.
Et ce qui compte, ce n'est plus la quantité de relations, mais la qualité de ces relations.
Exactement.
Et ça, c'est probablement une des grandes évolutions de l'année 2012, ou en tout cas une des grandes tendances, tu l'avais déjà annoncé, de l'année 2012.
Voilà, c'est mon pronostic ou mon pari pour cette année. À mon avis, on va voir de plus en plus de petits sous-espaces comme ça, assez privés, où on essaie de reconstituer de l'intime dans un univers où la vie est de plus en plus publique. Et on peut peut-être voir ça comme Facebook étant un grand réseau mondial, c'est la mondialisation, et ces petits sous-réseaux comme ça, c'est le repli identitaire ou le repli sur soi, son petit cocon personnel avec la famille choisie ou la famille subie.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarquées ou d'autres tendances qui t'ont marqué par rapport à cette question de la famille ?
En marge de ces réseaux plus privés comme PASS, il y a tout un essor de services qu'on appelle les messageries groupées, comme GroupMe qui a été racheté par Skype ou Beluga qui a été racheté par Facebook et qui était très tendance au festival South by Southwest en mars de l'année dernière.
Donc des messageries groupées pour envoyer des messages à tous les membres d'une même famille par exemple ou d'un groupe, etc.
Exactement, avec pour principe de se coordonner, d'organiser ensemble un déplacement au week-end ou qui va chercher les enfants après le foot.
Ça suffit Internet Stan, tu dois aller dormir.
5 minutes, j'ai encore des trucs à faire.
Shelley, déconnecte Internet et va te coucher. Randy, tu peux te déconnecter.
Mais Sharon, je dois envoyer un email à
l'atelier des médias.
Stan, j'ai besoin de ton ordinateur.
Papa, il y a Internet qui veut plus marcher.
On n'a plus Internet, on n'a plus rien.
Comment on faisait pour avoir des infos avant qu'il y ait Internet?
Atelier@rfi.fr.
Clic, 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 clic.
Très bien Internet, qu'attendez-vous de nous?
RFI.
Même quand on fait la fête à l'atelier, on aime travailler. Avec Simon, on s'est beaucoup creusé pour trouver un thème à cette émission anniversaire. Et finalement, on a donc opté, vous l'avez compris, pour la famille. La famille parce que l'atelier et Mondoblog, ce sont des familles. Au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso, en Tunisie, à Tahiti, à Madagascar. Des membres de cette famille nous ont accueillis dans les mois qui ont précédé. Ils nous ont rappelé que virtuel est un mot tout à fait inadéquat pour qualifier les relations nouées en ligne. La famille aussi parce que c'est une tendance actuelle, on vient de le voir avec Marie-Catherine, dans les réseaux sociaux, de resserrer sa présence, ses interactions autour de personnes qu'on connaît réellement. On abandonne pour certains Facebook pour PASS, le réseau qu'a cité Marie-Catherine. On ne blogue plus, mais on tient un journal intime sur Evernote, un autre service. En un mot, la famille est le prétexte de cette émission, mais c'est aussi une vraie tendance. Bonjour Enikao.
Bonjour.
Tu travailles dans la publicité et voilà. Tu es passionné par les médias, le blogging, les nouvelles technologies.
Tout à fait.
Et comme tu es un fidèle des fidèles de l'atelier depuis pratiquement le début, en tout cas depuis la première année, tu as proposé, enfin on s'est décidé tous les deux, et tu as proposé de nous faire une petite chronique pour l'atelier, spécial atelier, spécial 4 ans.
Bah, très brièvement, se rappeler de quelques moments et qu'est-ce que l'atelier des médias, ça peut apporter à quelqu'un qui s'y intéresse. Et donc, spontanément, je repense en 2009 quand Philippe, le père, avait invité Éric Métou de l'Express.fr, Narvik et moi-même, pour rappeler, voilà, les blogueurs avaient fait irruption pour le numéro 3001 sur le site. Et aujourd'hui, on voit des choses très surprenantes avec le plus du Nouvel Obs, avec Express Yourself. Donc, c'était déjà les prémices de l'arrivée des blogueurs dans les médias.
Donc ouais, tu fais allusion donc Express Yourself, etc. Ce sont les pendants de sites traditionnels ouverts aux blogueurs qui se sont lancés cette année pour la plupart.
Qui deviennent participatifs, qui vont au-delà du commentaire et ça donne des choses très surprenantes. Et voilà, l'atelier des médias dès 2009 montrait un petit peu les prémices de ce qui allait arriver bientôt. Et puis il y a des projets comme Mondoblog. L'atelier des médias m'a permis de rencontrer Cédric Allongi qui a un regard vraiment passionnant et qui fait vivre des projets extraordinaires. Ça rappelle tout le travail que vous avez fait sur les révolutions dans le monde arabe. Comment est-ce que voilà, on va réinventer de nouveaux modes d'expression de la démocratie toute fraîche? Comment est-ce que la société va s'emparer de ces nouveaux sujets? Et le regard que l'atelier des médias peut porter sur nos questions très franco-françaises et de voir que nos questionnements sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont passionnés de médias dans le monde francophone. Voilà, c'est assez étonnant de voir toute cette participation.
Et c'est un peu la force et c'est un peu l'intérêt pour nous de travailler pour un média comme RFI. Alors on va pas se lancer des fleurs toute la soirée, rassurez-vous. Mais c'est vrai qu'il y a la richesse d'être entre plusieurs publics et de devoir intéresser des gens dans le monde entier. Là, on voit derrière nous, pendant qu'on est en train de parler, les visages des membres qu'on a mis en valeur sur l'atelier des médias. Et vous remarquerez qu'en un clin d'œil, il y a des visages de toutes les couleurs, de presque tous les horizons. Et c'est vrai que cette rencontre était assez inattendue et elle est toujours assez étrange, quoi, entre les geeks parisiens et les geeks au sud du Sahara et ailleurs. Merci, Enikao.
Merci.
Tout individu a la possibilité de s'exprimer librement et par quelques moyens que ce soit.
Et Internet est le réseau qui bouscule, parce qu'en permanence, on parle de tout.
Tout le monde peut laisser des commentaires.
je crois qu'il y a une confusion entre ce qu'on appelle la communication et l'information.
Donc nous, après, on fait notre travail de journaliste, d'abord de choix, de hiérarchisation, de vérification.
Bonjour Philippe Couve.
Bonjour.
Dans chaque famille, il y a un père pour l'atelier des médias, et même pour Mondoblog, c'est toi.
Bah écoute, on a essayé, c'était il y a un siècle, déjà 4 ans au moins. On avait essayé de tenter ce qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux avec un programme de radio. Première tentative, j'avais essayé d'interroger les gens sur ce en quoi Internet changeait leur vie.
Ça, c'était l'atelier RFI, c'était
l'atelier
la première
RFI,
version.
Absolument. Et puis on changeait chaque semaine ou chaque jour de sujet. Ce qui fait qu'on ne retrouvait pas les mêmes personnes qui pouvaient contribuer et la relation ne pouvait pas se nouer d'une émission sur l'autre. Donc ça a duré pendant un été. Et ensuite, je me suis dit, mais ça serait bien de créer cette relation dans la durée, à la faveur des réseaux sociaux qui étaient en train d'émerger à ce moment-là, pour voir dans la durée ce qu'on peut construire. Et donc, ça fait effectivement cette notion de famille, une famille un petit peu particulière, comme toujours sur RFI, puisqu'elle est à moitié ici, de ce côté-là de la Méditerranée, et puis à moitié de l'autre côté. Malgré tout, les liens sont tissés, les échanges se font. Je crois qu'il y a eu pas mal de projets qui sont nés, qui se sont réalisés avec, autour, accompagnés, grâce à l'atelier des médias. Ça, c'est une grande fierté. Et puis, il y a quelques semaines de ça, j'étais à Tunis où j'ai eu le plaisir de rencontrer une jeune femme qu'on avait interrogée, Sarah Benhamadi, dans l'atelier des médias il y a 3 ans. À l'époque, elle était une jeune étudiante qui bloguait. Alors qui bloguait sur sa vie d'étudiante, et puis qui bloguait contre ce régime qui l'empêchait finalement d'avoir des espoirs, des envies, de quelque chose de plus grand, de plus démocratique. Ils n'étaient pas si nombreux à l'époque à faire ça, et puis on l'avait interrogé, elle nous avait raconté un petit peu tout ça. Et puis je l'ai rencontré là il y a quelques semaines, toi tu l'avais vu
en vrai,
avant, en vrai, et effectivement à travers ses liens, à travers ses outils, à travers ses réseaux, là-bas, mais dans d'autres pays aussi, ça a aidé à faire changer un certain nombre de choses. Et c'était assez émouvant de la voir et de dire maintenant, non seulement c'est pas un jeu, c'est pas une plaisanterie, ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut faire. On sait que ça peut avoir du poids et on se sent investi d'une grande responsabilité, disait-elle. Et j'ai trouvé ça très touchant que elle, qui était une petite étudiante avec son petit blog dans un coin, aujourd'hui se sente, quand elle dit quelque chose, investie d'une certaine responsabilité. Et peut-être qu'elle est devenue la grande sœur d'une famille nouvelle qui est en train de naître aussi en Tunisie.
Comment tu perçois aujourd'hui l'évolution de ce projet ? C'était un projet, on l'a dit, avec Enikao, qui était précurseur, qui sentait que les choses bougeaient. Aujourd'hui, on a été submergé par ces changements. Plus personne ne peut les ignorer, en tout cas, alors que même moi, quand j'ai pris l'émission, ça pouvait être quelque chose qu'on balayait d'un revers de la main. Aujourd'hui, c'est impossible. Plus personne ne peut dire c'est pas important, c'est secondaire, etc. Comment tu perçois ça, toi ?
J'ai en profité pour dire des choses. Maintenant que je suis plus à RFI et qu'il y a des responsables de RFI qui sont là, ici présents, ce dispositif, c'est pas un dispositif pour une émission. C'est très bien pour une émission comme pour l'atelier des médias, mais c'est un dispositif pour une chaîne entière. Aujourd'hui, ce dialogue, ce lien, ces échanges, il faut l'avoir d'un bout à l'autre de la journée, d'un bout à l'autre de la semaine avec les auditeurs. Et ça implique plein de remises en question, plein de choses, mais il peut en sortir beaucoup de choses extrêmement positives pour les journalistes, pour la radio, pour le média dans son ensemble.
Quelle partie de ce dispositif, comment tu vois ça ? C'est-à-dire le fait d'interagir, le fait de permettre aux gens de s'inscrire
Le fait de se mettre dans une dynamique de conversation, dans une dynamique d'échange permanent, d'aider à mettre en relation, à faire naître des projets, etc. Je crois que c'est... Aujourd'hui, les médias ne peuvent pas être juste des diffuseurs d'informations. Il y en a plein des diffuseurs d'informations. Le média, c'est créer un lien. Alors, c'est le lien Internet, mais c'est aussi un lien plus fort. Et le fait de mettre des gens en relation... Pour certains d'entre eux, on sait qu'on les a accompagnés aussi avec Mondoblog, leur permettre de voir plus grand, de voir plus loin. Un certain nombre des gens qui étaient avec nous au départ de Mondoblog se sont servis de leur blog de manière plus efficace qu'ils n'auraient pu le faire, d'un passeport pour bouger à travers le monde, pour trouver du boulot, pour monter des projets, etc. Je pense qu'il y a cette dynamique-là et ces choses-là qui sont là derrière.
En termes d'information, parce que RFI, c'est aussi une situation difficile souvent. On est présent dans des pays où il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit parce que on est vraiment très 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 écouté. Dans d'autres, on est moins important. Donc il y a toute une série de relations. Qu'est-ce que ça apporte en termes d'information pour toi de véritablement nouer des relations fortes avec l'auditoire, d'être dans un échange, de mettre en valeur aussi ce qu'apporte apportent, eux, comme contenu, comme information, etc.
Pour répondre, l'exemple, il est assez simple. C'est un monsieur qui travaille dans une radio. Il s'appelle Andy Carvin, il travaille dans une radio qui est la radio publique américaine, qui s'appelle NPR. C'est un hasard, il avait passé plusieurs séjours en Tunisie et il avait noué des relations assez fortes avec des gens en Tunisie. Quand l'an dernier, la révolution a commencé à poindre en Tunisie, il a vu des tas de tweets s'échanger. Alors il est allé au contact de ses amis tunisiens, il a dit « qui là-dedans envoie des tweets qui sont fiables ? Est-ce que cette information est fiable ou pas ?» etc. Et peu à peu, de cette manière-là, il a noué tout un réseau de relations, non seulement en Tunisie, mais ensuite en Égypte, et puis au Yémen, et puis en Syrie, puis dans tous les pays arabes. Et il est devenu, en quelques semaines, finalement la plus grande agence de presse d'information sur ce qui était en train de se passer, ces révolutions qui étaient en train de se passer dans le monde arabe. À lui tout seul, il s'est donné la capacité, avec l'aide d'un réseau qu'il a constitué peu à peu, de donner des informations. Il a vérifié des informations, il a relayé des informations qui étaient fiables, il a démonté des rumeurs, des choses qui n'étaient pas vraies. Et donc voilà, on peut créer des choses comme ça, mais ça se crée pas, c'est pas juste de la technologie, c'est de la technologie plus de l'intelligence et plus un petit supplément d'âme en plus.
Merci Philippe, merci d'être venu,
merci
d'avoir bravé le froid.
Et longue vie à l'Atelier des médias.
Merci.
http://atelier.rfi.fr.
Toujours parmi la famille, on a vu le père, on a vu le frangin avec Enikao. Il y a aussi les petits frères et les petites sœurs de l'Atelier des médias. Il se trouve que pratiquement au même moment que nous, ils fêtent les 1 an de leur média qui s'appelle les Silicon Maniacs. Pour ceux qui écoutent l'atelier régulièrement, c'est un mot qui est familier parce que à plusieurs reprises, je cite les Silicon Maniacs parce qu'on a été ensemble en Tunisie avec toi, Maël, par exemple. Bonjour.
Salut Ziad.
Toi, tu es une des plumes donc de ce webzine des Silicon Maniacs, qui est le magazine en ligne lié à la cantine, lié à Silicon Sentier, qui est l'organisation qui gère la cantine à Paris, c'est ça ?
Exactement, ouais. Tu disais que nous, on fêtait notre premier anniversaire. T'étais toi présent dès le départ et c'est avec toi qu'on a fait notre premier événement ici à la cantine autour de Wikileaks.
Nos auditeurs ont pu entendre, on a fait 2 émissions dessus.
Voilà, et après il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. On a fait quelques semaines ou mois après un événement qui s'appelait Je suis mort, sur tout ce qui était transhumanisme.
C'était il y a presque 1 an exactement, donc c'était une sorte d'événement avec une vidéo, avec plein de choses qu'on a fait avec OVNI autour de la mort et la vie à l'ère numérique et le transhumanisme qui est une sorte de tendance qui s'interroge sur ce que les nouvelles technologies vont apporter à la vie. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il nous a envoyé à nous tous un tweet pour dire « je suis encore là ».
Exactement, ouais.
Toujours dans la famille des maniacs, il y a Jessica. Jessica qui est encore plus une petite sœur parce que tu as connu les maniacs parce que tu as fait un stage à l'Atelier des médias. Certains doivent s'en souvenir.
Je voulais rappeler qu'en plus, tu es la première personne à avoir tweeté Silicon Maniacs. C'était le 3 décembre 2010. On a lancé le site et en fait, tu es la première personne à avoir tweeté en disant « ça y est, ils sont nés ».
Donc, vous avez un an. Vous suivez en fait l'actualité des nouvelles technologies. Vous dressez des portraits. Et c'est un fait assez rare, vous avez un éditorial qui est assez proche d'une autre. Vous vous intéressez pas que à votre nombril, vous vous intéressez à l'extérieur aussi. Pourquoi ? Nirina, peut-être, qui est la cheville ouvrière de cette petite équipe.
Pourquoi on s'intéresse à l'extérieur ? Moi, parce que c'est important d'ouvrir, c'est important de renouveler, de regarder ailleurs. D'ailleurs, là, à Silicon Maniacs, il va y avoir un petit dernier qui se rappellera Berlin Maniacs. Nous, le souvenir qu'on a avec l'Atelier des médias RFI, c'est évidemment la radio. C'est là où on a découvert ce média, sa chaleur, sa convivialité. C'est ce qui nous a aussi donné envie de développer notre propre web radio.
Donc, qui s'appelle donc Silicon Radio,
voilà.
Qui a déjà fait plusieurs événements. On a même fait des choses ensemble
sur le futur,
une émission sur le futur avec Philippe Couve notamment. Exactement. Et OVNI, et qui est amené à se développer à l'avenir parce que la cantine et tout ça, ça va se développer. Vous allez même peut-être déménager à un moment.
Alors oui, là je sais pas si on est en train de livrer un scoop, mais effectivement la cantine va déménager, on sait pas encore où, mais l'idée c'est toujours d'agrandir les murs, d'agrandir la famille de la cantine aussi, et emmener son écosystème le plus loin possible et l'agrandir encore et encore.
C'est l'heure du flash sur RFI, je vous propose de marquer une courte pause et de nous retrouver dans 3 minutes 30, toujours à la cantine à Paris. À tout de suite.